Saga CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.
Alors, nous arrivons au bout de cette journée consacrée aux relations professionnelles qui mérite, vous le voyez bien, une réflexion approfondie, qu'elle soit difficile ou non, nous l'avons vu. Et nous pouvons noter que ce qui nous amène à y réfléchir est le fait que justement elle puisse devenir difficile, voire insoutenable. Donc, de ce fait, l'insoutenabilité, quelquefois, nous conduit à la réflexion et c'est, on aimerait mieux réfléchir dans d'autres conditions, mais en tout cas, ça nous permet ça. Alors actuellement, faute de services de santé au travail dédiés et à défaut d'observatoire, nous avons peu de données concernant les RPS des corps de direction de la fonction publique hospitalière. Nous l'avons souligné ce matin. Et peu de données dont l'origine pourrait être les relations professionnelles difficiles sont exploitables, voire disponibles. Par ailleurs, les directeurs eux-mêmes, nous l'avons dit, restent réticents à aborder ces questions qui pourraient suggérer une certaine vulnérabilité ou fragilité, donc bien que ce soit au cœur de l'humain, comme vous le soulignez, Madame Zitoun, en porte-à-faux avec les représentations, surtout suggérées d'autorité, qu'ils ont de leurs fonctions et qu'ils sont tenus d'assumer. Alors, pareillement, ces mêmes fonctions d'autorité et de responsabilité empêchent ceux qui se trouvent mis en cause publiquement de s'en défendre par les voies habituelles, aggravant leur isolement. Certains dispositifs de prévention et de traitement sont mis en œuvre, mais demeurent très circonscrits à des situations avérées et donc trop tardivement, ou des volontés locales qui restent singulières et méconnues. Nous n'améliorerons les relations professionnelles et les conditions d'exercice des corps de direction et diminuerons le coût humain, financier et social de leurs défaillances que si nous acceptons d'y réfléchir avant qu'elles deviennent difficiles ou dans un après susceptible d'éviter la répétition. Donc après donc avoir envisagé ensemble les différents enjeux qui les traversent ce matin, nous allons donc aborder tout naturellement les actions de traitement ou de prévention qui peuvent permettre d'éviter les risques de crispation, de violence, de certains échanges en milieu tempéré. Alors c'est vrai que ce matin, nous avons déjà pu envisager certaines voies possibles. Alors, ce matin, justement, nous avons lu les témoignages émanant des directeurs ayant été pris dans des situations professionnelles difficiles, voire des situations de harcèlement. Et dans ces témoignages, ils ont émis un certain nombre de suggestions sur lesquelles j'aimerais revenir brièvement. Une des suggestions majeures des directeurs ayant témoigné est la nécessité de ne pas rester isolé en recherchant un interlocuteur adapté à sa problématique, ses collègues, son syndicat, le service de santé au travail, l'unité mobilité développement professionnel du CSG, un bon avocat. Il souligne à quel point il est important de savoir organiser une solidarité autour de soi, ce qui est d'autant plus difficile car ils alertent des relations au départ cordiales, voire amicales, peuvent changer de tonalité quand on est en difficulté. Les conseils qu'ils donnent sont aussi des conseils concernant l'aspect technique du management, respecter le droit public et bien avoir en tête que les procédures judiciaires sont très longues. Nous avons vu ce matin qu'on pouvait aller jusqu'à 6 ans et que la partie adverse peut utiliser toutes les ficelles, je reprends les propos, ce qui est coûteux à tout point de vue, humainement, financièrement et socialement. Qu'il faut tracer ce qui se passe. Il conseille de toujours prendre au sérieux les allégations en matière de harcèlement, même lorsqu'elles paraissent sans aucun fondement. Elles sont, pourrait-on dire, symptomatiques d'un problème. Par ailleurs, un directeur insiste sur l'objectivation. Quelles sont les situations précises que vous invoquez à l'appui de vos accusations ? La notion d'exercice normal du pouvoir de direction est essentielle en la matière. À ce titre, ils rappellent d'ailleurs également chacun à leur manière que pour conduire une équipe de direction, voire un établissement, il vaut mieux connaître les concepts clés de la psychologie des groupes en vue d'atteindre des objectifs institutionnels, ce qui réduit les inévitables conflits propres à tout groupe humain. En termes de prévention, un de ses directeurs suggère de structurer le fonctionnement collectif de l'équipe de direction, charte de direction, gestion collective des tensions avec des propositions de solutions pour les adjoints. Une autre préconise qu'un comité d'experts susceptibles soit mis en place pour enquêter sur ces situations, les répertorier et d'encadrer plus solidement les collègues manifestant des défaillances managériales. Pour conclure, Il conseille, sur le plan personnel, de ne pas rester isolé dans une situation difficile, nous l'avons dit, analyser la situation et, au besoin, préparer sa sortie avec une aide extérieure, de préférence neutre et bienveillante. Il préconise aussi de différencier sa vie de directeur de sa vie personnelle pour préserver sa santé physique et psychique de manière à pouvoir faire face aux coups durs. Nous l'avons vu aussi ce matin avec nos intervenants. Donc, outre ces recommandations données par nos collègues et également les préconisations, les prescriptions qu'ont données les intervenants, nous allons à présent aborder avec nos invités les actions de prévention de traitement initiées par le ministère, la DGOS, le CNG, certaines ARS, je pense, le HESP, et des établissements, enfin un établissement en tout cas, et ainsi que par le 5ACFDT. Alors, je vais inviter chacun. Vous n'avez pas de micro ?
Non, non, c'est pas ça.
Ah, pour défier les diapos. D'accord. Alors, je ne sais pas. Elle est là. C'est ça. Donc, je vais inviter chacun à se présenter et à présenter, bien sûr, les expériences et les actions de prévention qu'il a pu mettre en place ou qu'il envisage de mettre en place. Mais avant, je vous laisserai le soin de vous présenter vous-même et de nous dire brièvement quel est l'intérêt que vous avez pour le sujet. Alors, je ne sais pas, Aurélie, peut-être, je ne sais pas, dans le... Voilà.
Bonjour à tous, Aurélie Danilo, membre de l'équipe nationale du 5ACFDT, donc permanente de la section directeur d'hôpital. Je suis aussi élue depuis quelques temps en CAPN. Et je suis, avant cette expérience au 5A, j'ai été directrice adjointe dans un centre hospitalier, donc rien que de très classique.
Bonjour, donc Yann Dubois, je suis enseignant à l'EHESP sur le management des ressources humaines, je suis directeur d'hôpital et avant d'exercer à l'école, j'ai exercé dans trois établissements de santé différents, ma dernière expérience étant au CHU de Brest et j'ai surtout une expérience comme directeur des ressources humaines, donc bien évidemment j'ai été directement intéressé aux problématiques qu'on a vues aujourd'hui en tant que DRH sur le terrain. Et aujourd'hui, en tant qu'enseignant auprès des élèves et futurs collègues également.
Bonjour, Philippe Touzy. Donc moi, je suis également directeur d'hôpital et au CNG, donc chef du département qui est en charge des dispositifs d'accompagnement dont on va parler. Donc naturellement, l'intérêt pour le sujet qui est traité aujourd'hui est évident puisque c'est notre pain quotidien.
Patricia Vigneron, je suis la responsable de l'unité mobilité développement professionnel du CNG. Je suis au CNG depuis 2010. Antérieurement, j'ai travaillé dans d'autres univers privés, où d'ailleurs ces thématiques étaient également des sujets peut-être sous un angle un peu différent, mais voilà. Et je suis bien évidemment particulièrement intéressée par ce sujet, puisque parmi les professionnels que nous accompagnons, certains d'entre eux arrivent avec des problématiques ou des sujets en lien avec tout ce qui a été décliné jusqu'à maintenant.
Bonjour, Nathalie Sanchez, donc je suis directeur d'hôpital maintenant depuis 25 ans, dans les hôpitaux majoritairement. Actuellement, donc, je suis chef d'établissement au groupement hospitalier au Bon Montmorency, l'hôpital Simone Veil. Je ne savais pas si directement que j'étais intéressée par le sujet avant que Nathalie et Brigitte m'interpellent, de fait par notre pratique quotidienne et très directement, même si au départ ça pouvait paraître indirect, par deux sujets moi qui me passionnent évidemment de par mon métier, qui sont le management et le développement professionnel ou personnel, ça dépend comment on dit, ou personnel dans le contexte professionnel des managers.
Merci pour ces présentations. Alors, je vais vous proposer d'écouter maintenant Édouard Couty. Nathalie Marzac et moi-même avons eu le plaisir de nous entretenir avec lui et nous allons vous diffuser l'entretien. Alors, avant cela, je vais... donc, nous avons aussi fait photographe, reporter photographe. Et donc... Édouard Couty, on ne le présente plus. Toutefois, je veux simplement rappeler qu'il a une carrière de directeur en établissement, petits établissements, gros établissements. Il a été chargé en 2012 de la restauration du dialogue social à l'hôpital par Marisol Touraine au travers du pacte de confiance. Et dernièrement, chargé en décembre 2016 par cette même ministre d'envisager dans le cadre du plan qualité de vie au travail 2007 l'engagement numéro un qui consiste en l'élaboration donc, d'une stratégie nationale avec un médiateur et l'installation d'un observatoire. Donc nous allons, au cours de cet entretien enregistré, revenir sur l'organisation de ce dispositif de médiation pour lequel donc, il a rédigé un rapport. Il va vous en parler. Voilà, vous pouvez lancer l'enregistrement.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, mais j'ai eu un contretemps et donc je ne peux pas être avec vous physiquement présent aujourd'hui. Mais par le truchement de la technique et de l'enregistrement, je peux répondre à quelques questions qu'on m'a posées en vue de ce colloque. Alors, pour ce qui concerne la médiation, Madame Touraine m'avait demandé de rendre un rapport avant le 30 mars. Je l'ai rendu le 27 mars. J'avais fait une grande concertation. J'avais consulté l'ensemble des représentants institutionnels, l'organisation syndicale de l'ensemble des catégories qui travaillent dans l'hôpital, médecins, soignants, administratifs, techniques, etc. La fédération, les conférences, bon. Et de tout cela, il est ressorti un certain nombre de choses qui me paraissent consensuelles, sur lesquelles j'ai construit mes propositions. Aujourd'hui, la ministre, Madame Buzyn, m'a fait une lettre de mission que j'ai reçue en août, qui confirme donc que je continue à exercer ma fonction de médiateur national pour les dossiers qui me sont remis au niveau national. Je voudrais dire que pour le moment, les dossiers que j'ai ne concernent que les médecins hospitaliers, mais que j'aurai sans doute dans les semaines qui viennent d'autres catégories qui seront concernées. Et puis, je pense que je vais savoir dans les semaines qui viennent si les propositions que j'ai faites, et notamment le déploiement de la fonction de médiation au niveau régional, commencera à se faire progressivement à partir de 2018. Tout ça est une question de moyens et les temps sont difficiles, comme vous le savez. Je voulais simplement insister sur une préconisation que j'ai faite qui me paraît très importante, c'est que la médiation, c'est une chose. Il faudra d'ailleurs en faire une définition et bien définir ses missions. J'ai proposé qu'on rédige une charte de la médiation à l'hôpital public. Je crois qu'il faut aussi donner la priorité à ce que j'ai appelé de la conciliation locale. Il y a un certain nombre de principes la médiation, le médiateur doit respecter. C'est fondamental pour que la médiation soit crédible, légitime et qu'on lui donne quelque chance de réussir. D'abord, le premier principe, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que le médiateur, c'est quelqu'un d'indépendant. Donc il n'est pas dans la hiérarchie de l'hôpital, il n'est pas dans la hiérarchie avec l'ARS, et il n'est pas dans la hiérarchie des services du ministère de la Santé. Il est indépendant. Il y a quelques modèles qui fonctionnent. Je pense en particulier au médiateur de l'éducation nationale, qui est un personnage indépendant, et qui a des médiateurs dans chaque rectorat qui sont indépendants du recteur. Donc si on doit avoir des médiateurs régionaux ou interrégionaux, ils seront indépendants et constitueront un réseau qui sera animé par le médiateur national. C'est en tout cas ce que j'ai proposé. Et pour moi, c'est une garantie de crédibilité et de légitimité de la médiation. Deuxième principe, c'est la neutralité. C'est-à-dire que le médiateur ne peut pas faire de la médiation si il a connu, conseillé une partie ou l'autre. Et donc, il faut que cette neutralité soit garantie. Sinon, il doit se déporter. Et puis, il y a une troisième condition, c'est la confidentialité. C'est-à-dire, ce qu'il a à connaître reste confidentiel. Donc ces questions-là, ces principes-là, on ne peut pas les respecter si on est dans un hôpital. C'est pour ça que je dis que ce qui se passe dans un établissement ou dans un groupe d'établissements, c'est de la conciliation, c'est pas de la médiation. Mais après, il peut y avoir de la médiation, c'est une voie, une perspective. Et donc si on rentre dans la logique de médiation, il faut garantir l'indépendance, la neutralité, la confidentialité, etc. Et donc là, il faut que ce soit distancié par rapport aux protagonistes. Que ce soit une personne et une institution, ou deux personnes, ou plusieurs personnes dans une institution, tous les cas de figure sont envisageables, mais il faut que le médiateur puisse faire sa médiation de manière distanciée, indépendante, neutre, et qu'il garantisse une confidentialité, ça c'est fondamental. Alors après, c'est à lui de construire une relation de confiance, et puis de définir. Dernier élément que je voudrais donner, c'est que il faudra qu'on définisse bien ce que c'est que la médiation. D'où un travail de réflexion. Et comme dans le monde hospitalier, ça n'existe pas, c'est quelque chose de nouveau, il ne faut pas qu'on fasse faire à la médiation des choses pour quoi elle n'est pas faite.
C'est-à-dire ?
C'est un risque. C'est-à-dire que le médiateur, si vous voulez, la médiation, c'est une fonction qui consiste à renouer des liens qui ont été rompus pour apaiser ou régler des conflits qui impliquent une institution, une personne ou des personnes, etc. Ça n'est pas un juge qui va donner raison à l'une ou à l'autre. Ça n'est pas un procureur qui va accuser ou mettre en cause quelqu'un. C'est pas le médiateur, c'est pas quelqu'un qui va prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est pas un syndicat. Ce que je crois, par contre, quand je parlais de formation tout à l'heure, c'est que ceux qui seront médiateurs, médiateurs nationaux ou médiateurs régionaux, interrégionaux, devront suivre une formation de médiateur. Si on est sur un modèle médiateur régionaux ou interrégionaux et médiateur national, ce que j'ai proposé finalement, la priorité, je l'ai dit, c'est la conciliation locale. Donc il faut essayer d'organiser un système d'écoute où que les personnes qui se sentent en difficulté ou voire en grande difficulté puissent parler à quelqu'un localement. C'est ça la question. Parce qu'on est sur un gros sujet à l'hôpital, c'est l'omerta. Il faut qu'il y ait un système qui permette aux gens de s'ouvrir, de parler de leurs problèmes, sans qu'ils aient le sentiment qu'ils courent des risques en faisant ça. Bon, c'est pas évident, mais ça doit pouvoir se faire. Et surtout, ce qui est intéressant dans la fonction de médiation, c'est que si c'est pas possible au niveau local, ou si ça débouche pas, ou si ça se passe mal, il faut que les personnes concernées, ou les institutions concernées, puissent faire appel au médiateur régional. Donc les règles de saisine, il y a celle-ci qui est échec pour une raison ou pour une autre de la démarche locale, ou saisine par l'ARS du médiateur régional ou interrégional. Et puis il peut y avoir éventuellement saisine du médiateur national si le médiateur régional considère que c'est nécessaire. Ou si les parties concernées sont dans un... si le conflit est dans un état tel qu'il faille éventuellement saisir le médiateur national. De même que le médiateur national peut être saisi par les instances nationales, le ministère, la ministre de la Santé, les directions du ministère, le CNG, voilà. Je crois que la responsabilité du médiateur national, c'est aussi d'animer un groupe autour de la Commission nationale de médiation qui réfléchisse avec les gens de terrain et avec les organisations représentatives, institutionnelles ou syndicales, à l'élaboration, je dis de bonnes pratiques, c'est pas le mot bien adapté, mais disons de recommandations pour diagnostiquer plus rapidement les conflits quand ils existent, ou les situations personnelles de gens en difficulté pour essayer de les identifier le plus tôt possible. Des recommandations pour prévenir ce type de situation, c'est-à-dire pour éviter qu'on en arrive là. Alors après, une fois sur le terrain, les gens font ce qu'ils veulent. Mais on n'a pas ça. On ne dispose pas de ça. Et donc ça, je crois que c'est très important. Et ça devrait être, ça, pour moi, enfin, sur, en tout cas la proposition que j'ai faite, ça devrait être dans les responsabilités du médiateur qui fait chaque année un rapport annuel à la ministre pour dire « voilà ce qu'on a fait, voilà les difficultés qu'on a rencontrées, voilà les propositions que nous faisons pour adapter le système ». C'est pour ça que je crois qu'il est très important de regarder ce qui se passe sur le terrain. Quand vous avez des services dans lesquels il y a une bonne circulation de l'information, il y a un partage de cette information, il y a de l'empathie, il y a un respect des gens, avec une écoute, il y a la volonté d'accompagner ses collaborateurs, voire de promouvoir un peu d'autonomie d'action pour eux. C'est-à-dire, quand on n'est pas dans un système, j'utilise des mots forts, mais bon, c'est caricatural, mais c'est pour faire comprendre, quand on n'est pas dans un système féodal, l'absentéisme de courte durée diminue considérablement. Il n'y a pas de situation, sauf exception, mais bon, il n'y a en général pas de situation de personnes en difficulté, en burn-out, etc. L'équipe, elle tourne. La qualité des soins s'en ressent. Et c'est des équipes qui ont une meilleure efficience.
Et attractivité.
Et puis je ne parle pas de l'attractivité pour les professionnels. Donc on voit que la question, ce n'est pas seulement de traiter des cas individuels de personnes en difficulté. La question, c'est si on fait une bonne prévention par des bonnes recommandations, qu'on adapte les formations, qu'on respecte un certain nombre d'idées finalement extrêmement simples, de bon sens, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais bon, c'est comme ça, que s'il y a une volonté, on règle beaucoup de problèmes et on devient plus attractif. Et on ne coûte pas nécessairement plus cher. Et donc, moi, je défends l'idée, et ça, j'y suis très attaché, parce que ça fait des années que je pense ça, et il y a un triptyque qu'il faut qu'on traite globalement. C'est qu'on ne peut pas parler de qualité des soins si on n'a pas des actions en matière de qualité de vie au travail. Et on ne peut pas parler d'efficience si on n'a pas une bonne qualité de vie au travail et une bonne qualité des soins. Vous êtes efficient si vous êtes satisfait du boulot que vous avez fait, qualité des soins, et qu'on vous le dit, et si vous êtes à l'aise dans votre travail, qualité de vie au travail. Vous n'avez pas une bonne qualité de vie au travail s'il n'y a pas une bonne qualité des soins. Vous n'êtes pas efficient, parce que vous coûtez plus cher, vous êtes absent. Donc tout ça est lié. On ne peut pas dire qu'il faut chercher l'efficience à tout craint au détriment des deux autres.
Voilà, ça s'arrête un peu brutalement, mais je pense que c'est assez évocateur de tout ce qu'il a pu nous dire. On a dû faire des coupes claires, mais voilà. Donc, dans cette seconde partie, nous allons écouter nos autres intervenants. Alors, simplement, Édouard Couty, on voit bien, insiste sur la conciliation locale. Il nous a aussi rappelé qu'il avait eu l'occasion, quand il était DHOS avec DOS, avec Daniel Toupier, de mettre en place, qui est là, et il nous a dit de vous inviter à en parler, d'un dispositif de médiation, de conciliation que vous avez mis en place, voilà, et qui avait été assez générateur aussi de compétences au sein pour les directeurs, parce que être à la fois acteur de démarche de ce type d'accompagnement de ses collègues, et donc voilà. Donc je pense que vous pourrez nous en dire un mot. Nous allons peut-être aborder maintenant les actions menées par le 5AS dans les situations difficiles, puis nous passerons à Philippe Touzy et Patricia Vigneron qui nous parleront de leur action au sein du CNG. Voilà, je vous laisse, puisque donc, c'est en deux temps, hein, première partie, plutôt ce qui, est, qui concerne les situations difficiles avérées, et le deuxième temps, les mesures plutôt préventives. Voilà.
Alors bon, j'ai la lourde tâche à la fois de débuter cette table ronde et d'incarner à moi toute seule, même si je suis plusieurs momentanément, physiologiquement, l'équipe des permanents du 5AS. Alors l'équipe, alors sur un focus très précis, parce que je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, notamment par Nathalie Marzac, sur l'action du 5ACFDT au sein des instances qui justement ont à traiter de sujets des souffrances au travail, des conditions d'exercice et de la manière dont on peut améliorer les dispositifs existants, mais sur l'angle de l'action, je dirais, individuelle, c'est-à-dire celle qui consiste à être en prise directe avec quelqu'un qui va mal pour diverses raisons et qui lance auprès de nous une forme d'appel au secours plus ou moins important, et la réponse qu'on peut lui apporter dans des situations qui sont très variées, mais vous allez voir, avec des schémas quand même qui se répètent et qui font écho notamment aux situations qu'on a évoquées ce matin au travers des témoignages et au travers de l'analyse qu'ont pu en faire nos interlocuteurs de la table ronde de ce matin. Alors tout d'abord, vous décrire l'équipe. Parce que le 5ACFDT a beaucoup de chance, il a une équipe conséquente de permanents. C'est un terme qui est celui qui appartient à la CFDT. Il y a d'autres organisations qui les appellent autrement. Qu'est-ce qu'un permanent ? Un permanent, c'est avant tout, dans le cadre du 5ACFDT, un directeur de la fonction publique hospitalière qui est mis à disposition du syndicat, du 5ACFDT. Et le terme mis à disposition, qui est un terme statutaire, n'a jamais été aussi à propos que dans ce cadre-là, qui est celui de se mettre à disposition des collègues. Parce que c'est l'essentiel de la fonction et de la tâche. Alors, cette équipe, elle est constituée de 7 permanents temps plein, et puis un responsable à temps partiel qui est positionné sur les cas de direction du secteur privé et sur les directeurs de la FPH. Ces permanents sont répartis par métier, en fait, par section. Donc, directeur d'hôpital, D3S, directeur des soins. Et afin que chaque adhérent, chaque collègue puisse avoir un interlocuteur miroir, c'est-à-dire quelqu'un qui soit de son métier, qui connaisse ses codes, etc. C'est le principe qui existe dans d'autres syndicats et dans d'autres fonctions. Alors, les permanents ne sont pas ce que ne sont pas les permanents. Ce ne sont pas des coachs, parce qu'ils sont formés comme leurs collègues à l'EHESP et ils n'ont pas de formation spécifique pour entamer ce travail, qui est en fait un engagement momentané au service de la collectivité et du métier. Ils ne sont pas avocats. Donc ça expliquera un petit peu la façon dont on procède, que je vais vous détailler plus avant après. Donc leurs compétences juridiques sont différentes de celles de Maître Mazat, par exemple, qu'on a entendu ce matin. Et ils ont comme vocation première de recevoir un message qui est celui des collègues qui sont très souvent en difficulté, mais pas que. Alors, la tâche du permanent, c'est de répondre à un certain nombre de questions qui, généralement, sont des questions très pratiques sur le statut, sur la façon dont fonctionnent les instances, etc. Et puis, il y a tout un champ qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, qui est le champ des difficultés professionnelles. Alors, c'est un terme un petit peu châtié. Cette dimension de difficulté professionnelle, elle est polymorphe, et dans beaucoup de situations, et je vais juste vous livrer mon expérience personnelle parce que en termes de volumétrie, on a été en difficulté de quantifier les situations de conflit qu'on traitait en globalité dans l'équipe. C'est beaucoup trop disparate, et voilà. Donc j'ai juste pris moi ma main courante entre guillemets de situations que je qualifierais de conflits sérieux interpersonnel, avec une dimension interpersonnelle. Depuis que j'ai pris mes fonctions au Syncas le 1er novembre dernier, j'ai traité une trentaine de situations. Enfin, quand j'ai traité, ça veut dire que j'ai accompagné ou écouté, etc., une trentaine de collègues, donc directeurs d'hôpital, dans des situations plus ou moins critiques, mais qui étaient toutes des situations de conflit et des situations de conflit relativement avancées, donc avec des répercussions qui sont celles qu'on a évoquées ce matin, des répercussions morales, professionnelles, psychiques et aussi physiques. On le verra, il y a des issues qui sont parfois le congé de longue maladie, etc., même si heureusement elles sont rares. Alors, généralement, comment ça se passe ? Ça se passe, le 5AS, CFDD, c'est un réseau. C'est un grand réseau. Et comment le collègue ou l'adhérent, le collègue, parce qu'on a les deux cas, certains viennent à l'adhésion parce qu'ils se trouvent en difficulté, c'est relativement classique comme situation. C'est la force du 5AS, c'est au-delà d'avoir une équipe donc, qui est constituée et organisée, c'est d'avoir aussi un réseau. Ce réseau, il passe par les collègues adhérents, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, souvent le premier cercle qui vient en aide, c'est le cercle des collègues directs. Donc parmi ceux-là, il y a potentiellement des adhérents CFDT, des 5AS CFDT qui vont adresser le collègue en disant « tu devrais appeler le 5AS ». Il y a le cercle aussi des délégués régionaux, puisqu'on a la chance d'avoir un maillage en région. Et les délégués régionaux, c'est aussi une voie d'entrée. Et puis, il y a la dimension des militants, c'est-à-dire un peu plus avancé, c'est les conseillers syndicaux qui, là aussi, relaient des situations. Et puis, il y a l'appel direct, c'est-à-dire la personne qui s'est renseignée sur qui, quelle organisation syndicale pouvait lui venir en aide et qui nous contacte directement. Donc très généralement, ça se passe de manière assez similaire. On en a discuté avec le reste de l'équipe et on a constaté que les questions qui surgissaient sur le premier contact et le premier appel, elles étaient à peu près tout le temps les mêmes. C'est ces trois questions clés. La première chose, c'est est-ce que ce qui m'arrive est normal ? Déjà, parce que je n'ai plus... Ça fait écho à ce qu'on disait ce matin. Je ne suis plus en capacité de me rendre compte si ce qui se passe est conforme à une forme de norme. Je ne sais plus. Deuxièmement, est-ce que ce que l'on m'a fait est légal ? Parce que très généralement, il y a eu des actes, donc des faits qui ont été qui ont blessé la personne qui va nous appeler, et elle veut savoir si ces faits sont légaux, c'est-à-dire si on avait le droit de lui faire ça. C'est assez simple, mais c'est très fort. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et comme nous sommes quand même des administratifs et bien déformés, avec une dimension juridique toujours qui traîne quelque part, c'est quelles sont mes voies de recours, forcément. Voilà. Donc, cette première partie... Donc sur la base de ce postulat, qui est le premier contact, généralement quand il s'agit de situations compliquées, et vraiment critiques, enfin délicates, où on sent que les gens souffrent, on n'apporte pas de réponse, on écoute. Voilà, on n'apporte pas de réponse à chaud. Pas quand la situation est visiblement grave et a déjà blessé la personne. Enfin, la personne est déjà en situation de souffrance. Donc, on essaye de s'appliquer une règle qui est celle d'une écoute active, c'est-à-dire d'une écoute sans jugement et d'une écoute qui va essayer de recueillir un maximum d'informations, de les poser, parce que nous, on va avoir besoin aussi de prendre du recul sur ce que nous délivre la personne et pour voir comment on peut ensuite la conseiller, l'accompagner au mieux. On ne va pas faire du réactionnel. On essaye de ne pas se laisser entraîner par la personne, elle vient déverser une colère, une souffrance. On essaye de ne pas se laisser entraîner par ça. Ce n'est pas toujours facile. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas formés spécifiquement à ça. Donc, quand quelqu'un vous raconte une situation qui est visiblement d'une injustice criante telle qu'elle vous l'a décrit, forcément, on a envie d'embrasser sa cause. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif final, c'est d'arriver à conseiller, suivre et accompagner pour que la personne pour préserver ses intérêts. Donc, ne faut pas se laisser entraîner dans une pente dangereuse. J'entendais tout à l'heure le terme « faut dépassionner les choses ». C'est l'intervenante précédente, je crois, qui l'a évoqué. Voilà. Donc on est plutôt dans une écoute active, mais on ne réagit pas et on ne rebondit pas dans un premier temps. Il vient ensuite le temps, nous, de l'analyse. Donc on va prendre du recul sur ce que nous a évoqué la personne. Déjà pour effectivement pouvoir la conseiller sur le plan technique et juridique au mieux, ne pas faire d'erreur, ne pas la lancer sur des démarches qui, in fine, pourraient lui porter plus préjudice qu'autre chose ou qu'elle n'a aucune chance de voir aboutir. Et puis ensuite, sur le plan impalpable, je dirais, du relationnel, du ressenti, on va voir comment on peut la conseiller au mieux. Parce que je dirais que la partie technique juridique, c'est-à-dire quand la personne a été l'objet de d'actions qui sont illégales, enfin qui la rétablir dans ses droits, c'est la partie la plus facile de l'action. C'est-à-dire lui la conseiller pour qu'elle fasse valoir ses droits, ça c'est la première partie du travail, mais c'est loin d'être la plus importante dans les situations où les relations interpersonnelles et conflictuelles sont très dégradées. Donc ça c'est le premier point. On va donc pour ce faire très souvent se documenter, prendre des compléments d'information, essayer d'avoir de la justesse dans le recueil des informations, y compris en venant vers la personne, parce que je crois que ce qui caractérise notre action, enfin du moins on s'y astreint le plus possible, c'est de garder la proximité, le lien. C'est très très fort et très rapprocher avec la personne qui est en situation de souffrance. Maintenant qu'elle nous a confié, entre guillemets, un peu sa destinée, enfin, j'exagère, mais elle attend beaucoup de nous. Donc, même si nous, on n'a pas toutes les réponses dans un premier temps à lui apporter, ou on essaye de maintenir le lien pour justement pouvoir affiner et amorcer une autre dimension de l'accompagnement qui est celui du soutien. C'est-à-dire que la personne se sente soutenue, elle n'est plus seule, alors elle l'était déjà peut-être plus, mais on assure une présence. Voilà. Alors c'est modeste, mais c'est souvent reconnu comme important de la part des intéressés. Et cette analyse, on la partage, parce qu'on est aussi une équipe. Donc il y a une dimension collective, notamment sur les sujets délicats, on le partage avec les autres membres de l'équipe pour affiner la réponse qu'on va faire à l'adhérent ou au collègue. Et puis après vient le temps de la réponse. La réponse, c'est donc cette dimension de conseil, de suivi, d'accompagnement dans lequel on va être dans l'action. Donc très souvent, on restitue un certain nombre de conseils. On fait avec effectivement ce qu'on apprend au fur et à mesure des possibilités réglementaires et qu'offre le statut, etc. Et puis on fait avec notre bagage, on fait avec notre vécu, on fait aussi avec celui qu'on a partagé avec les autres permanents. Et avec toujours en tête, là je le répète, le fait que la personne trouve une possibilité de rebondir et de sortir de sa situation. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Alors parfois, comme je ne sais plus qui l'a évoqué ce matin, mais c'est Maître Mazin, je crois, ça suppose de dire à la personne des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'elle a envie d'entendre. Donc ça, c'est une des difficultés. Nous, on ne juge pas, on ne prend pas parti. Contrairement à ce que disait M. Couty dans son intervention, on essaye au maximum. Alors il y a des fois, les faits sont qualifiés. Donc là, il y a des moyens d'action qui sont clairs et nets. Mais quand on n'a pas matière, parce qu'on a le récit d'une personne, on essaye de rester, et ce n'est pas toujours facile, dans une neutralité qui va nous permettre d'être de bons conseils. Et ensuite, on va assurer un accompagnement qui peut être de multiples formes. Donc, sur les aspects juridiques et techniques, ça peut être accompagné à rédiger des pièces de recours, etc. Quand on arrive aux limites de nos possibilités, comme je disais, on n'est pas avocat, on adresse vers. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est beaucoup trop complexe ou ça nécessite un conseil juridique professionnel. On adresse aussi vers un partenaire fondamental, qui est le CNG. de CNG, qui, je rappelle, est la DRH des directeurs, et avec lequel on articule notre action, notamment dans la dimension accompagnement professionnel qui est celle qui va être développée par les deux intervenants de la table ronde. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis ça nous arrive aussi d'orienter, de dire, mais là, il faut peut-être s'orienter, il faut peut-être faire une action vers les autorités de tutelle, vers le chef d'établissement. Enfin bon, on essaye de faire en sorte que la personne s'adresse à qui va pouvoir lui apporter des réponses à sa situation. Donc tout cela en maintenant, je disais, le lien, en suivant le plus finement possible l'évolution de la situation et en assurant quelque chose qui est peut-être un peu ringard, mais que je qualifierais de soutien moral. Donc il y a une dimension un peu nouvelle, genre que je voulais aborder. Enfin, quand je dis un peu nouvelle, c'est qu'elle fait écho à ce qu'évoque Édouard Couty, c'est qu'il nous arrive aussi de faire de la médiation. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais on essaye, quand la relation n'a pas atteint un point de non-retour, et notamment dans le cadre de relations qui sont dégradées, entre guillemets, entre adhérents du 5SFDT, parce que c'est aussi important, il faut aussi que ça ait un sens que d'être un syndicat et de partager donc a priori en son sein un certain nombre de valeurs. Ça se traduit par... Alors par contre, on s'astreint à certaines règles de déontologie qui font écho à celle qu'a évoquée Édouard Couty, donc rester dans la neutralité, être à distance, ce qui est notre cas, hein, on n'est pas dans les établissements. On appréhende donc les choses avec une certaine froideur au sens premier du terme, et surtout une confidentialité extrême. Et cette confidentialité, on la traduit dans ces situations, d'abord par le fait de demander à chaque protagoniste, alors au protagoniste qui s'est adressé à nous, s'il est d'accord pour qu'on contacte l'adhérent avec qui il est en conflit, évidemment. Et ensuite, on dépayse un peu les choses. Il y a un permanent qui a eu le contact avec l'adhérent en premier, qui reste son référent. Et un autre permanent va prendre contact avec l'autre adhérent concerné si les parties en sont d'accord. Et sur cette base-là, on reste sur quelque chose comme ça de différencié, mais dans la transparence, c'est-à-dire qu'on tient informé et l'un et l'autre des contacts qu'on a pris et de l'évolution que ça peut... Enfin, ce qu'on a pu négocier en termes de d'évolution du rapprochement entre les deux protagonistes. Donc évidemment, la médiation, c'est quelque chose d'important l'objectif étant toujours de résoudre la situation dans l'intérêt des personnes et dans l'intérêt, évidemment, de l'institution aussi. Parce que souvent, elles sont au sein d'un même établissement.
On va peut-être reprendre avec Philippe Touzy et oui. Patricia Vigneron la suite. Et puis après, peut-être dans l'échange, à ce moment-là, on ira un peu plus loin. C'est vrai que il y avait encore des points que tu aurais souhaité aborder.
Non, je voulais juste terminer sur le fait que notre objectif était d'améliorer cette forme de service rendu à l'adhérent et aux collègues encore et toujours, et qu'on était dans une dynamique justement de progression. Et je voulais juste dire, pour faire en conclusion, pour faire écho à ce que disait ce matin Henri Poinsignon et sur lequel a rebondi Christelle Mazat, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des situations qu'on suit, effectivement, c'est la fuite. Ça se termine par une fuite ou, dans notre langage, une mobilité. Voilà. Mais c'était quand même la solution première qui était à l'issue de ces conflits.
Donc, de ce fait, on va vous laisser la parole, Philippe Touzy et Patricia Vigneron, au sujet de cette unité. Donc, vous avez en charge l'un et l'autre. Donc, je vous laisse.
OK. D'abord, merci pour votre invitation. Et puis, merci pour... vous êtes emparé de ce sujet des relations professionnelles difficiles et du harcèlement qui, bien évidemment, prend de plus en plus d'écho. J'allais dire d'ampleur, mais non, parce qu'il y a toujours eu de l'ampleur, c'est surtout de l'écho qu'il prend aujourd'hui. Alors, il y a deux mots qui revenaient beaucoup ce matin, c'était l'isolement et le silence. Et effectivement, c'est des situations où les personnes se sentent isolées et où la parole, c'est l'omerta en réalité. Et Édouard le disait aussi très bien. Alors, au CNG, ce qu'on a essayé de faire, parce que déjà, c'était dans son décret constitutif, donc un peu dans son ADN initial, c'est de mettre en place un espace qui se veuille bienveillant, pour que justement il n'y ait plus d'isolement ou qu'il y en ait moins et que la parole puisse se libérer. Et pour y arriver, il fallait naturellement qu'il y ait un certain nombre de préalables, hein, c'est-à-dire, comme le disait Aurélie, des règles déontologiques très strictes, avec notamment la confidentialité absolue de ce qui se dit, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et puis une équipe professionnelle, puisque donc le choix a été fait de recruter 6 coachs, dont 2 qui étaient des agents publics qui ont été formés au coaching, et 4, comme Patricia qui s'exprimera tout à l'heure, qui avaient des parcours divers et variés dans le monde du travail, mais qui tous étaient des coachs seniors, donc qui avaient déjà une belle expérience. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cet espace qu'on a voulu créer, ben, il a quand même été bien fréquenté, puisqu'il a commencé à fonctionner en 2008, et que depuis, il y a plus de 1500 personnes qui sont passées par l'unité mobilité et développement professionnel. Et sur 6500 personnes, puisqu'on accompagne aussi des praticiens hospitaliers, et c'est d'ailleurs un sujet en soi, puisque là aussi, il y a beaucoup de thèmes qui sont convergents avec celui des directeurs, mais aussi différents. En tout cas, il y a près de 1000 personnes issues des corps de direction qui sont passées dans par nos dispositifs, ce qui fait quand même pas mal sur un volume global de l'ordre de 6000 à peu près. Donc, ça fait un sixième. Et je crois que ça commence à devenir un chiffre significatif. Alors, je le dis parce que un de nos enjeux a été de faire connaître qu'il y avait cet espace, qu'il y avait cette possibilité. Tout le monde ne le savait pas et tout le monde ne le sait encore pas. Donc, un de nos axes de travail, c'est d'utiliser au maximum déjà les relais, les leaders d'opinion et les relais comme notamment le vôtre, pour que les gens sachent et viennent et surtout osent venir. Parce qu'une autre des difficultés qui est liée au principe d'isolement, c'est qu'on s'est trouvé très vite face à des situations qu'on avait identifiées ou qui nous étaient relayées par vous ou par le département de gestion des directeurs au CNG. Ça, je voulais le dire parce que c'est important. Alban Nizou est dans la salle. Il y a l'unité mobilité et développement professionnel, mais il y a aussi le département de gestion des directeurs qui est au cœur de la gestion des carrières. On fonctionne avec eux, mais on fonctionne aussi avec des règles par moment d'étanchéité. Et c'est aussi un des points qui a fait que ça a marché, parce qu'on a su expliquer aux gens, c'était aussi un des souhaits de Daniel Toupillet, c'était que l'unité qui va s'occuper du coaching ne soit pas au même endroit que la gestion des carrières, pour qu'il n'y ait pas mélange des genres, et qu'il y ait vraiment garantie, même sur le plan fonctionnel formel, qu'il y avait une confidentialité. Parce que les gens nous appelaient en disant « Oui, mais si je viens vous voir, on va déduire que j'ai un problème et puis ça ne va pas être bon pour mon évaluation. » Alors on leur disait « Bon, de toute façon, si vous avez un problème, à un moment donné, on en aura forcément connaissance, donc il vaut mieux venir avant. » Et en toute hypothèse, non seulement le fait de venir n'est pas un élément négatif par rapport à ce qui peut être votre gestion de carrière, mais c'est même plutôt un élément positif. Parce qu'en gros, il y a finalement deux façons de venir dans les dispositifs aujourd'hui, qui est suite à un entretien avec le département qui gère la carrière, un point de carrière, et le département des directeurs va orienter vers l'unité le directeur, ou directement en appelant l'unité mobilité. Voilà, je ne veux pas faire très long sur ce point-là, mais ça me paraissait important de le rappeler. Et puis de dire aussi qu'on a été amené justement à développer depuis 2 ans une démarche qui est plus, j'allais dire, top-down, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens, c'est-à-dire qu'on leur propose, on leur écrit, et c'est le cas pour tous ceux qui prennent une chefferie d'établissement, on leur envoie une lettre en disant « Vous allez prendre une chefferie d'établissement, sachez que vous pouvez venir nous voir pour avoir un accompagnement. » Et là encore, c'est « Vous pouvez venir nous voir » parce que, bien sûr, le principe clé, c'est le volontariat et que ce sont des dispositifs qui ne fonctionnent que s'il y a volontariat. Alors, pour en venir à ces dispositifs, ils sont donc de plusieurs natures qui ont vocation à répondre un petit peu aux 3 niveaux de prévention des RPS en général, du harcèlement en particulier, on va dire des relations professionnelles difficiles. Alors, c'est vrai que on est surtout sur le niveau de développement des connaissances et des réponses pour mieux faire face aux situations à risque, puisqu'il y a 3 niveaux, agir sur les causes organisationnelles, permettre aux professionnels de mieux connaître les situations à risque et les moyens qu'ils peuvent développer, et puis un 3e niveau qui est plus curatif. Donc l'idée est de développer naturellement des niveaux qui soient véritablement préventifs et que le curatif vienne ensuite. Donc Patricia va vous peut-être développer un petit peu les dispositifs.
Simplement en termes de timing,
on est trop bavard.
Pas forcément, je crois qu'on a décalé un petit peu, donc je me permets de vous dire qu'on avait prévu d'arrêter à 16h30, donc si on veut que tout le monde parle, il faut qu'on aille un peu plus vite. Voilà. Oui, je sais.
Donc combien de minutes?
Cinq minutes pour que Yann Dubois, qui est le dernier, puisse s'exprimer aussi. Voilà. Vous êtes le dernier.
Alors, quelques mots complémentaires par rapport aux propos de Philippe. Juste, effectivement, Philippe a évoqué 1500 professionnels accompagnés. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Sur les 1500 professionnels accompagnés, tous ne sont pas venus à l'accompagnement parce qu'ils rencontraient des relations professionnelles difficiles ou parce qu'ils étaient harcelés, entendons-nous bien. Hein. On place résolument l'accompagnement comme un dispositif de développement professionnel, un dispositif d'anticipation. Et moi, j'ai régulièrement des gens qui viennent me voir en disant « je vais bien, c'est parce que je veux continuer à aller bien que je vais vous voir. C'est pas parce que je suis en grande difficulté. » Donc voilà. Par ailleurs, évidemment, il est vrai, on accueille parfois des gens en situation particulièrement délicate et qui rencontrent des difficultés relationnelles. C'est certain aussi.
C'est vrai, vous êtes un dispositif intermédiaire entre les situations avérées difficiles et puis plutôt la prévention.
Nous, on est au service du développement professionnel des professionnels accompagnés, donc des directeurs et des médecins, et au service du développement de l'institution. On est en fait un peu à l'intersection en coaching. Alors, concernant nos dispositifs, on a plusieurs types de dispositifs qui se sont montés au fil du temps. On a des dispositifs individuels, notamment le coaching, mais on peut aussi proposer à certains qui le souhaitent des bilans professionnels ou de travailler un projet professionnel alternatif. Mais c'est vrai que sur le plan individuel, c'est vraiment beaucoup tout ce qui est coaching qui est activé. Et on a également des dispositifs collectifs qui se passent sous forme d'ateliers professionnels et qu'on a monté au fil de l'eau en écoutant en fait tous les besoins qui nous remontent, notamment par les professionnels accompagnés. Donc on a une offre assez diversifiée aujourd'hui qui pour autant n'a pas vocation à couvrir tous les problèmes et à régler tous les problèmes que les gens rencontrent au niveau relationnel puisque comme ça a été dit ce matin, il y a tout un tas de dispositifs qui doivent interagir entre eux. Alors pour ce qui nous concerne en termes de coaching, je vais vous parler surtout du coaching. Il y a un préalable pour que le coaching fonctionne, c'est que d'abord ce soit le dispositif adapté, qu'il intervienne dans la bonne temporalité et notamment sur des situations de harcèlement ou de situations où les gens sont vraiment très mal, ça peut ne pas être le temps du coaching. Donc il nous arrive de ne pas mettre en place un coaching, même quand la personne le demande. Parce que quelqu'un qui est très dépressif, qui va très mal, c'est d'abord le temps du soin. Et là, notre rôle, c'est de l'orienter vers un dispositif adapté à ce moment-là et de le voir ensuite plus tard quand il va mieux pour envisager un coaching.
Ça, vous êtes très attentif à ça,
oui,
je crois.
Oui. On est particulièrement attentif à ça parce que un coaching avec quelqu'un qui va très mal, ça peut potentiellement aggraver sa situation. Donc, confronter au travail quelqu'un qui est en situation de burn-out, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, ça peut être une bonne idée à un moment donné. La temporalité est importante et on y veille. Donc, sur les thématiques de coaching, je vous ai mis les thématiques sur lesquelles on a été sollicité en 2016. Elles peuvent varier d'une année à l'autre. Hein. Donc, ce sur quoi on est le plus sollicité, cette année, enfin en 2016, et ça continue, c'est tout ce qui est autour. On a beaucoup de demandes et de plus en plus autour du management. Y compris d'ailleurs, ça commence à venir du côté des médecins qui prennent une chefferie de service, une chefferie de pôle, voilà, qui se retrouvent confrontés à des questionnements sur leur management. Donc 70% de tout ce qui est optimisation des compétences professionnelles et managériales, c'est vraiment la posture managériale qui est en question. On a aussi pas mal de demandes autour de tout ce qui est communication, relations interpersonnelles avec mes pairs, avec l'ARS, avec mon équipe, avec, de manière un peu plus générale. Donc tout ce qui est autour de la relation revient régulièrement. Et d'ailleurs, le coaching permet généralement, assez souvent, de bien travailler sur l'aspect relationnel et sur les interrelations. On a des demandes autour de « je suis à la limite et si ça continue, je vais arriver en situation de burn-out ». Donc des gens qui viennent nous voir dans un début d'épuisement. On a des gens qui viennent nous voir autour de tout ce qui est assertivité, confiance en soi, soit parce qu'ils ont été confrontés à un moment à une difficulté particulière. En général, c'est pour ça. Soit parce qu'ils prennent une nouvelle activité de chefferie, par exemple, et qu'ils souhaitent être accompagnés sur le changement de posture associé. Et on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir sur la prise de recul en nous disant on est écrasé, entre guillemets, par l'opérationnel et par tout ce que nous avons à faire, et on n'a plus d'espace ou de temps pour justement se poser et réfléchir de manière plus globale à la stratégie. On a également, mais on l'a mis dans l'optimisation des compétences professionnelles, des demandes autour des réflexions organisationnelles et de la stratégie.
Que vous faites en collectif ou individuellement ?
Alors là, je vous parle, ça c'est thématique de coaching individuel. Mais il y a aussi des choses qu'on fait en collectif, en atelier. D'accord. Donc selon la demande, selon la situation, on peut faire de l'individuel. On peut faire de l'individuel à un moment donné, du collectif plus tard. D'accord. On peut faire que du collectif. La personne peut juste participer à un atelier. Donc c'est au cas par cas, en fonction de la demande et du besoin de la personne accompagnée. Je dirais que globalement le coaching, ça permet vraiment de travailler sur la prise de distance et le recul en général, qu'on soit dans une situation relationnelle difficile ou pas. Pour ceux qui sont dans une situation relationnelle un peu plus difficile, on peut être amené à travailler sur des thématiques autour de l'estime de soi, l'aider à mieux s'appuyer sur ses ressources. On peut également aider les gens à mieux prendre conscience des interactions entre eux et le système, ou de l'impact du système et de l'organisation sur son propre fonctionnement. Ça permet souvent, je dirais, le coaching, comme parfois les ateliers, de retrouver un peu de confort professionnel et surtout de sortir de l'idée qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre et de retrouver une possibilité d'action.
Un peu ce que disait Pierre-Olivier Monteil ce matin.
Oui, d'accord. On a également des ateliers, notamment l'atelier de co-développement qui rend un vrai service autour de tout ce qui est isolement managérial, qui permet vraiment la rupture de cet isolement, qui permet de travailler en intelligence collective, de favoriser les coopérations, de développer une autre forme d'écoute et de questionnement.
C'est un dispositif expérimental, je crois.
Non. On l'a lancé en 2013. D'abord, on a monté des groupes de directeurs d'hôpitaux. Ensuite, on l'a fait pour les D3S, pour les PH. Et là, depuis peu de temps, on le fait pour les directeurs d'établissement support. Donc, on a trois groupes de directeurs d'établissement support qui sont en cours aujourd'hui, en co-développement. On lance également, d'ici la fin de l'année, un groupe mixte où on va mélanger les populations médicales et administratives. Et dans tous nos ateliers hors co-développement, à ce jour, on mélange les populations. Et c'est généralement très apprécié, parce que justement, ça permet de se rendre compte pour les PH que, ah oui, les directeurs aussi, ils ont des contraintes, ils rencontrent certaines problématiques qui parfois sont communes. Et en tout cas, ils nous font tous un retour extrêmement intéressé sur le fait d'être mélangés entre corps. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus parce qu'on aurait beaucoup plus de choses à dire, mais voilà.
J'imagine.
Ce qui est important, c'est vraiment que le dispositif soit adapté, qu'on soit dans la bonne temporalité, et important de banaliser l'utilisation autour des prises de poste, autour de moments clés de la carrière, parce que en étant accompagné en amont, parfois ça peut éviter justement de faire naître des situations qui deviennent difficiles dans les structures.
Je crois que quand on est engagé dans son travail, c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à en parler. Et donc, je vais laisser Nathalie Stanchez exposer Donc, son système managérial, qui n'est pas un système féodal, je ne pense pas.
Vous allez me dire. souvent dans notre métier de directeur, et on le voit d'ailleurs dans les écrits sur ces sujets, on nous présente comme étant un peu écartelés entre d'un côté des objectifs de performance économique, organisationnel, GHT, et de l'autre côté des objectifs de QVT, etc. Et d'ailleurs, on a des fois, certes, on peut lire des fiches de mission où on a la liste de nos objectifs, et avant il y avait marqué « et en même temps vous veillerez à la sérénité sociale », et maintenant il y a « et en même temps vous veillerez à la qualité de vie au travail des professionnels ». Et je crois vraiment, et Édouard Couty l'a dit, c'est que les défis de demain, on va pouvoir essayer d'y répondre qu'en inversant, en disant c'est parce qu'on va travailler avec les professionnels ils vont être engagés, heureux au travail, qu'on arrivera peut-être à atteindre les objectifs. Et c'est vrai que là, il y a tout un courant de pensée. Moi, je le résume en disant les entreprises libérées. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, moi, que j'aime beaucoup, qui est un patron d'une multinationale indienne, qui dit « les employés d'abord, les clients ensuite ». Donc imaginez que ce serait politiquement totalement incorrect de dire à l'hôpital « les professionnels d'abord, les patients ensuite ». Mais en fait, ça fait quand même réfléchir par rapport, et je pense que plus on va avancer, et plus c'est dans cette logique qu'il faut aller.
Les professionnels peuvent venir des patients aussi, après.
Aussi. Donc c'est vrai que moi, j'avais envie de parler de deux points, c'est-à-dire que c'est par le projet managérial que moi, j'aborde ce sujet-là, peut-être de façon aussi un peu récente. Et le deuxième point qui tient à cœur, et le CNG en parle, mais c'est qu'est-ce qu'on fait nous dans les hôpitaux ? C'est le développement professionnel des managers. C'est un vrai sujet. Ce qui a été dit ce matin vraiment percute beaucoup. On voit la complexité. Donc systémique, ça veut dire qu'on répond par un projet. Et individuel, ça veut dire qu'on répond par l'accompagnement des gens qui sont en situation de management. Alors c'est vrai que jusqu'ici, moi j'ai fait, comme tout le monde, on a fait des démarches RPS. Alors, je rejoins ce qu'a dit Madame Zitoun. Moi, j'en ai un très mauvais souvenir de cette porte d'entrée. On faisait des états des lieux, on faisait des plans d'action, des formations et tout. Et donc, vous avez compris que le travail, c'est la souffrance. Et on faisait le catalogue de tout ce qui ne va pas dans l'hôpital. Maintenant, j'en fais plus, moi. Mais maintenant, on parle QVT. On a fait des choses intéressantes. Je caricature un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est notre quotidien. Et puis sinon, la porte d'entrée à l'hôpital, c'est la crise. C'est la crise, alors soit très très grave, donc effectivement sanction disciplinaire, soit la crise où on fait ce que dit Édouard Couty, on fait de la conciliation interne, on fait venir des consultants, mais pas tout, on n'en trouve pas toujours au niveau des tiers, donc c'est vrai que le dispositif là c'est intéressant, on adapte les organisations, les postes, enfin, tout ce qu'on fait, on fait tous. Ce qui se passe aussi souvent, et je fais une petite parenthèse parce qu'on est dans un cadre syndical, mais c'est quand même un sujet... c'est qu'on a, sur ces sujets maintenant, énormément d'expertise CHSCT. Donc, comme on est une confédération, un jour, ça serait intéressant d'avoir un débat. Parce que l'expertise CHSCT, parfois, c'est le contraire de la compréhension et du conflit au sens positif, c'est-à-dire du conflit constructif. On retrouve une logique de relation de travail avec les méchants patrons d'un côté et les employés en souffrance. Et en tant que directeur d'hôpital, je me permets dans ce cadre-là de le dire parce que je pense que la CFDT pourrait porter quelque chose autour de ça. Et j'ai rien, de par mon appartenance CFDT, j'ai rien contre les expertises, c'est du droit de nos partenaires sociaux, mais on peut tous se raconter quand même comment ça se passe et je ne suis pas sûre que ça soit la bonne démarche.
Ça coûte peut-être un peu cher.
Alors, ça coûte quand même, oui, si vous voulez, un ordre de grandeur, un pôle de 200 personnes, 100 000 euros. Ça, c'est du vécu de la semaine dernière. Voilà. Enfin, il y a des collègues qui ne contrediront pas, non ? Donc peut-être juste nous dire, bon, moi, l'approche que j'ai, ça fait un an que je suis dans cet établissement, je vais essayer juste de vous montrer le schéma, c'est plus facile, c'est de dire que c'est bien, je ne sais pas si quelqu'un le... Ah, super. C'est en fait des extraits que j'ai mis là, du projet managérial, et comment j'essaie, alors c'est un témoignage, faut vraiment, j'essaie, avec toute humilité, comment j'essaie d'avancer avec les professionnels de l'établissement. Ça, c'est le schéma que je donne et que je partage dans l'établissement pour expliquer comment je vois les choses. Donc, c'est un schéma qui est inspiré de Vincent Lénard, les responsables porteurs de sens. Ça a été pour moi un livre important parce qu'effectivement, on travaille ensemble sur le sens dans les deux terminologies, la direction et puis la finalité. À quoi on sert ? Vers où on va ?
et comment chacun, après, une fois qu'on aura défini ça ensemble, c'est pour ça que là, j'ai mis à définir, parce que c'est le travail qu'on est en train de faire, et comment chacun participe à ça. Mais déjà, il faut qu'on ait alimenté ça. Avec, à l'intérieur, avec en transversal, les projets stratégiques de l'établissement. On a un projet d'établissement, on a un projet social. Mais faites le tout, vous regarderez souvent, quand on demande les projets d'établissement, à l'intérieur, il n'y a pas de projet managérial. On a le projet médinal, on a le projet de soins, on a le projet système d'info, on a tout un tas de choses. Il n'y a pas en tant que tel la formalisation et donc la visibilité, le partage d'un projet managérial. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, on travaille sur trois axes. Alors là, c'est pas révolutionnaire. Les individus, les équipes et les organisations. Et moi, ce que j'aime là, c'est le yo-yo. C'est qu'en bas, il y a les résultats. Et on ne peut pas... C'est cette fameuse performance ou système intégratif que moi je vois dans la démarche managériale, c'est qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et que surtout, si on n'est pas congruent entre le sens, les valeurs, les grands principes qu'on a dit, et la réalité de quand je demande un remplacement, quand je demande des congés, quand on m'évalue, et ben c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit là dans le document que la direction diffuse. Alors là, c'est pire que tout. Donc voilà le schéma qu'on partage dans l'établissement. Maintenant, je vais avancer plus vite parce qu'on est pressé pour vous dire, bon, concrètement, moi, la phrase qui m'anime en matière managériale, c'est celle de Gary Hamel. Alors, c'est à la fois peut-être très naïf et prétentieux, c'est de dire que notre job, c'est de créer des entreprises qui méritent que les hommes et les femmes qui y travaillent aient envie, je parle bien envie, d'y donner le maximum. Donc, vous allez me dire, c'est bisounours, c'est très ambitieux, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'anime. Et donc, l'idée, c'est ce qui est... Ce matin, ça a été dit beaucoup, souvent, c'est de créer des espaces. Créer des espaces où les gens vont pouvoir être créatifs, participer, la fameuse culture du co-élaborer, co-construire, etc. Et on voit qu'en fait, que dans nos organisations, eh ben, il faut un peu pousser les murs, malgré tout, pour recréer ces espaces, parce que c'est la performance pour le patient. Et que donc, et c'est une boucle, c'est l'intérêt des professionnels et je pense leur bien-être. Donc si je vais directement, avant de parler de développement personnel, donc ça c'est la démarche par où on commence. On commence par les managers, moi je commence par le premier cercle, c'est l'équipe de direction. Ensuite les quatre sup, et puis on élargit le directoire parce qu'il faut mettre les médecins dans la boucle, etc. Donc là je suis en train d'élargir les cercles dans la stratégie rhizome, moi j'appelle ça, c'est-à-dire on essaie de diffuser. On va avancer simplement pour vous donner des exemples de qu'est-ce qu'on a mis en place. Ça, c'est la partie organisation parce que projet médical, j'ai acheté, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, les organisations, c'est de l'ambulatoire, c'est du territoire. Donc, comment ça se traduit pour les professionnels? C'est tout ce qui est autour de mobilité, agilité. Je continue. Merci Aurélie. Alors voilà, ça, c'est ce qu'on diffuse avec un titre là qu'on ne voit pas, qui a marqué, pour l'instant, au niveau des 4 sup. Expérimentons. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de mettre des briques. Donc, c'est un vaste chantier dans tous les termes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter à ce stade un projet managérial parce que ça serait pas congruent avec la démarche. Il faut que le processus lui-même d'élaboration il soit congruent avec ce qu'on met dans le contenu. Alors voilà, on a effectivement le comité de direction, l'équipe de direction, c'est majeur pour un chef d'établissement. On a travaillé, moi je suis très gâtée au niveau équipe de direction, mais sur un séminaire avec des outils. Alors c'est des outils où on travaille sur mode de pensée. On se met dans des cases en termes de personnalité. C'est peut-être réducteur, donc c'est les MBTI ou autres. Moi je travaille avec MR Génétique. Mais surtout ce qui a été important, c'est que les collègues ont accepté de partager leur profil. Et donc après, dans l'équipe de direction, c'est des boutades, parce que les profils ont des couleurs sur cet outil-là. Et quand il y en a un qui fait un truc ou qui commence, tout le monde commence à dire « Ah ouais, mais toi, t'es rouge, ah oui, c'est vrai, c'est normal, etc. » Et pour le coup, en se connaissant soi-même et en voyant les différences des autres, eh ben, ça devient un outil d'enrichissement puis d'acceptation que, ouais, il y a des fois dans les comités de direction, c'est un petit peu tendu. Le co-développement, bon, moi, je suis effectivement une adepte plus-plus. Donc je l'ai fait découvrir à l'équipe de direction et on a un groupe de 4 sup, donc mélangés soins, logistiques, administratifs, pilotes, qui a un atelier de co-développement pendant l'année là et qui va avoir une phase de capitalisation pour alimenter le projet managérial. Sur le codir, j'ai oublié de dire, parce que ça c'était intéressant, c'est quand je suis arrivée, il y avait eu un intérimaire et donc les collègues avaient l'habitude de faire ce qu'ils appelaient le codir sans le DG. Et donc, ils ont dit, bah, est-ce que bah, maintenant qu'on en a un pour de vrai, en quelque sorte, enfin, pour un certain temps, est-ce qu'ils sont venus voir en disant, est-ce qu'on peut continuer ? Et en fait, c'est dans la logique. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce qui peut se faire sans le N plus 1, quel qu'il soit, eh bien, qu'il faut qu'il se fasse dans l'espace qui a été créé pour ça. Et donc, ils se réunissent tous les lundis matins, sans moi, et je pense qu'ils y trouvent leur compte, et en tout cas, moi aussi. Donc, le CODEV, la communauté d'enjeux, ça, c'est un outil qu'on va déployer pour être à l'échelle de l'établissement, c'est-à-dire qu'on définit un enjeu stratégique. Nous, on va travailler sur l'accueil, et tous les professionnels de l'hôpital peuvent être volontaires pour y participer. On dégage un peu de temps de travail, enfin, c'est tout un processus, pour dire qu'en fait, chacun est utile aux objectifs stratégiques de l'hôpital, là où il veut participer. Coaching, évidemment, on propose des coachings. J'ai fini après, je ne parlerai pas du développement personnel, il n'y aura pas le temps. Le café gourmand, c'est hyper important, ça fait, c'est un espace, parce qu'il faut de la convivialité. Non, mais surtout, où en fait, les cadres sont invités, donc tous les cadres de l'établissement, ça fait une soixantaine de personnes. Je viens avec l'équipe, et il n'y a pas d'ordre du jour. Alors les premières fois, ils se sont dit que je devais être fatiguée. 15 fois, on m'a demandé l'heure du jour, et il n'y en a pas. Et c'est fait exprès, parce que vous imaginez bien ce que ça crée, ces espaces, où en fait, je ne viens pas avec mes enjeux du moment. Je leur laisse la possibilité de dire, voilà, de quoi on parle aujourd'hui, c'est quoi vos préoccupations. Donc ça, c'est, ça démarre, et puis on a des petits gâteaux, c'est sympa. Et il y a un outil aussi, je pense que certains l'ont, moi qui m'intéressait beaucoup, que la DRH et la DSO sont en train de mettre en place, c'est le WOOG pour les remplacements. Donc c'est une plateforme, moi je l'appelle le blablacar des remplacements. D'un côté il y a les demandes et de l'autre côté il y a les offres. Ça responsabilise. Vous savez l'enjeu des remplacements. Tous ceux qui sont hospitaliers, ils savent comment ça se passe. Alors je t'appelle le dimanche, enfin, ça crée des relations dans les équipes incroyables. Là on responsabilise tout le monde. Il y a les besoins de l'établissement et les gens s'inscrivent. Moi je suis disponible le mardi, etc. Et on essaie de faire rencontrer les deux. C'est pas simple. Si un jour je reviens, je vous dirai ce que ça donne, mais c'est pas simple à mettre en place. Donc voilà, c'est juste un exemple. Le dernier sujet, je conclurai pour le coup là-dessus, c'était le développement personnel. C'est indispensable. On a la chance, nous et les PH, d'avoir le CNG. À l'intérieur de l'hôpital, on n'a que ce qu'on crée. Donc, une petite parenthèse quand même. J'y crois, mais il y a un coût. Moi, quand je suis arrivée, pour l'équipe de direction, il n'y avait pas de budget de formation. Et en général, quand j'arrive dans un hôpital, je pense que les collègues, c'est pareil. Ou alors, c'est portions congrues. Bon, bah là, on a deux cadres en coaching qui ne sont pas dans l'équipe de direction. Hein. Un coaching bien négocié pour hôpital, nous, on est à 6 000 euros la personne. Un co-développement pour des 4 sup sur 8 séances, bah, c'est 8 000 euros. Enfin, c'est des choses concrètes. Donc la question après, c'est que ça doit pouvoir s'étendre. Des managers dans l'hôpital, il y en a beaucoup. Il y a des médecins qui ne sont pas PH, je ne sais pas s'ils ont droit, etc. Et donc, il faut qu'on réfléchisse comment diffuser, en fait, ce genre de choses. Donc, j'ai juste la dernière diapo. Voilà, ces deux petits personnages qui parlent du travail. Voilà, ils rêvent à leur travail de demain. Il y a un petit garçon qui dit, moi, je voudrais être astronaute plus tard. Et l'autre, il dit, ben, moi, quand je serai grand, je serai heureux. Voilà, merci.
Merci, Nathalie. Donc, heureux dans une entreprise plutôt libérée. Donc maintenant, Yann Dubois va conclure. Alors, qu'est-ce qu'on fait en formation pour prévenir et former les directeurs de la fonction publique hospitalière ? Puisqu'on reproche souvent à la formation de ne pas former les professionnels adaptés aux fonctions. C'est une des plaintes récurrentes qu'on a. Donc, je te laisse... voilà.
Oui, je te remercie. Je vais être extrêmement synthétique hein, parce qu'on est déjà au-delà de 16h30. Donc, je vais résumer au maximum mes propos. Alors, c'est vrai que ce matin, Pierre-Olivier Monteil nous a dit que le pouvoir, ça s'apprend. Alors, très sincèrement, c'est sans doute vrai, mais c'est beaucoup plus facile de prévoir et d'organiser un cours sur la construction d'un EPRD que sur la gestion du désaccord hein, ou l'exercice du pouvoir. Alors pour autant, par rapport aux critiques que tu as évoquées à l'instant, c'est vrai qu'on réoriente très fortement notre enseignement initial vers la posture managériale. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup moins qu'avant sur la notion de connaissance et on est beaucoup plus aujourd'hui sur l'acquisition de compétences et sur l'acquisition d'une posture pour faire face à la gestion d'équipe, pour faire face à la gestion de conflits, etc. Alors, si je dois résumer en quoi on essaye d'impulser cette évolution, je dirais qu'il y a du formel et de l'informel. Sur le formel, bah, tout simplement, on a fait un certain nombre de créations du type, on a créé des mini-conférences opérationnelles au sein desquelles on aborde des thématiques d'actualité qui ne sont pas abordées habituellement ou qui le sont uniquement sous l'angle du statut. Et on sait bien que ça ne suffit pas, le statut. Donc, par exemple, il y a une conférence qui sera organisée au cours de la spécialisation des élèves directeurs d'hôpital sur le harcèlement moral et sexuel. C'est la première fois qu'on l'organise, hein, c'est vrai que ça n'existait pas avant. C'est au sein de ce type de conférence qu'on fait, par exemple, intervenir Madame Vigneron sur le coaching, qu'on aborde aussi l'égalité professionnelle homme-femme, etc., etc. Et puis surtout, on a développé ce qu'on appelle la simulation. Alors vous savez que ça existe beaucoup au niveau clinique. Hein. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos médecins et nos infirmières sont formés par simulation. On met aussi en place des ateliers de simulation managériale. Alors je peux vous en donner un exemple très rapide. On fait des simulations d'entretien difficiles. Puisqu'on sait très bien que quand on reçoit un agent en entretien et qu'on est stressé parce qu'on a une mauvaise nouvelle à lui annoncer, hein, vous savez, quelquefois les fins de contrat, des reclassements professionnels, l'engagement d'une procédure disciplinaire, quand on a 26-27 ans, qu'on n'a pas d'expérience professionnelle et qu'on doit l'annoncer à un agent, c'est quand même très dur. Et le fait d'être stressé, le fait d'être angoissé, le fait de ne pas être formé, de ne pas être préparé à ce type d'entretien, peut nous amener à avoir des postures extrêmement dures, sans concession, qui génèrent in fine des relations professionnelles difficiles, voire des situations de harcèlement. Donc on prend des cas réels, avec des documents réels, mais il y a des collègues qui viennent, qui ont connu ces situations, et on fait jouer nos élèves en les plaçant comme des directeurs novices qui doivent gérer une situation sous la forme d'un jeu de rôle. Toute notre stratégie, c'est qu'en les plaçant dans cette situation-là, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils s'acculturent progressivement, certes à maîtriser le statut, mais aussi à en faire un bon usage, à en faire un usage intelligent en trouvant la bonne distance, le bon dialogue et le bon encadrement quand il s'agit de simulation d'encadrement d'équipe. Ça, c'est pour l'aspect formel. J'aurais d'autres exemples à vous donner, hein, mais on n'a pas trop le temps. Sur l'aspect informel, bien évidemment, c'est presque ça le plus important, je dirais. Dans le choix de nos intervenants, dans les exemples qu'on prend au niveau de nos formations, bien évidemment, on essaye de faire émerger un certain nombre de valeurs qui sont propres à un management humain, si je puis dire. Alors, les valeurs, elles sont très classiques. Hein. Alors, on n'a pas de charte en tant que telle, mais c'est faire preuve de discernement, de pondération, d'humanisme, de convivialité. C'est un mot qui nous paraît important. Il a été utilisé plusieurs fois ce matin. Bref, c'est faire preuve de respect de l'autre, tout simplement. Donc, dans le choix des intervenants, dans l'analyse du contenu des interventions, dans les exemples qui sont mis en exergue, on est très vigilant là-dessus. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, on a aussi un rôle de conseil, c'est-à-dire que sans le vouloir, même si on a tendance à le favoriser, lorsque les élèves prennent leur poste, souvent, dans les 2 ou 3 ans qui suivent, ils nous appellent. Puisque vous savez bien que pendant la formation, on les voit souvent, les élèves, donc on noue des relations professionnelles assez proches. Et assez spontanément, on a beaucoup d'élèves qui nous appellent pour essayer de détricoter des situations compliqués qu'ils ont soit avec des collègues, soit avec leur chef d'établissement. Donc on joue un rôle de conseil informel par rapport à notre expérience professionnelle et puis par rapport aux valeurs que je vous citais précédemment. Alors je donne juste un petit exemple. La dernière collègue qui m'a appelé, c'était pour me dire qu'elle était inquiète. Ça faisait 6 mois, un peu plus maintenant qu'elle avait pris son poste. Et elle ne comprenait pas, son chef d'établissement venait la voir tous les soirs dans son bureau et restait 2 heures avec elle tous les soirs dans son bureau. Donc elle me disait, est-ce que c'est normal ? Non. Bon, voilà, on joue ce rôle de conseil et d'orientation. Bon, il est 16h45, donc je vais juste conclure par une image, parce que ce matin, il a dit que c'était important de parler de nos métiers sous forme de métaphore. Alors moi, il y en a une qui me vient à l'esprit. Alors vous savez, parce qu'il a été question aussi des temps grecs et romains, lorsque les généraux romains gagnaient une grande bataille, ils paradaient devant toute la foule pour célébrer leur victoire. Et puis, il y avait toujours un esclave qui était posé derrière eux et qui leur murmurait à l'oreille « hominem te esse », qui veut dire « toi aussi, tu n'es qu'un homme ». Nous, à notre niveau, on essaye d'être l'esclave en susurrant à l'oreille de nos élèves « agissez toujours avec équanimité, modestie et humanité ».